des livres et des lires, Marie Bronzini.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM dans des livres et des lires. Aujourd'hui autour de cette table, Paul Parsi, bonjour Paul.
Bonjour Marie.
Toujours aussi enthousiaste. Comme... Bénédicte.
Ouh, bonjour Marie.
Ouais. Bonjour, merci d'être là. Et Christophe Laurent.
Hey Marie.
Salut Christophe. Oh là là, comme je vous aime. Il était une fois dans l'Est, d'Arpad Soltès, chez Agulo. C'est Christophe qui nous en parlera. Paul nous parlera de Rhys. 1 minute 49 secondes. J'aime beaucoup le titre. Chez Actes Sud. Et attention, Bénédicte, ça résonne parce qu'elle, elle veut toujours faire mieux. 100 millions d'années et un jour, oui. De Jean-Baptiste Andrea, chez l'Iconoclaste. Soyez les bienvenue. On démarre avec Christophe.
Oui, je suis prêt.
Il était une fois dans l'Est.
Alors, qui a envie de découvrir l'Est de la Slovaquie?
Alors, pas Paul et moi, mais peut-être
Alors, c'est...
je rêve.
Si vous voyez à peu près où c'est là-bas, oui, entre la Pologne, l'Ukraine,
l'Hongrie. Sur la map monde, je vois.
Voilà. Donc, le paysage, c'est ruines post-soviétiques, campagne sans charme, population pauvre et avinée. C'est un peu comme Tchernobyl, mais sans la radioactivité et avec une criminalité XXL. Donc moi, forcément, présenté comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Et Arpad, je vais essayer de le prononcer à la slovaque, Arpad Soltec, avec « Il était une fois dans l'Est », se montre génialement déprimant et extrêmement talentueux. C'est un roman assez rare, chez Agulo. Il faut souligner le culot quand même de cette maison d'édition, c'est-à-dire de sortir un polar slovaque. Il faut être courageux. Donc l'histoire, c'est son premier roman. Hein. Le lecteur suit en fait deux flics. Il y a deux flics de la criminelle à Kozice. Alors Kozice, moi je ne sais même pas où c'était.
Ah oui.
Vous connaissez, vous?
Pas du tout.
D'accord. Donc c'est quasiment à la frontière ukrainienne. C'est quand même une grosse ville. Donc à Kozice, il y a Miko et Valent Le Barge. Ce sont deux flics de la criminelle et ce sont deux flics extrêmement craints. Presque respecté, parce qu'en fait on respecte pas trop l'ordre là-bas, mais il y a quand même quelques personnes qui ont encore un peu de morale, et ces deux-là sont un peu des icônes, des sortes de Clint Eastwood locaux. Et Miko et Valent Le Barge tombent sur une jeune fille, Nika, qui a été retenue pendant 4 jours, séquestrée et violée. Elle a réussi à s'échapper, je vous raconte pas comment, la scène est formidable. Elle a réussi à s'échapper, elle arrive au commissariat, elle porte plainte. Alors il y a d'abord des flics qui ne veulent pas la calculer, parce que vous savez, déjà les viols en France, quand vous allez porter plainte, c'est pas facile. Alors vous imaginez, dans l'Est de la Slovaquie, comment vous êtes reçus. En tout cas, Miko et Valent Le Barge, encore une fois, prennent la chose très au sérieux. Ils lui font un tapissage, ils lui montrent des photos, et elle reconnaît Mammouth. Mammouth, c'est le patron de la communauté tzigane. Et non seulement c'est le patron de la communauté tzigane, mais c'est un type qui croque à tous les trafics possibles. Trafic de cigarettes, prostitution infantile, trafic de migrants, détournement de fonds européens. Le type, c'est un peu un baoul, mais il est quand même au cœur de tout le système criminel de ce coin. Et en plus, parce que c'est corrompu jusqu'à l'os, il est soutenu par les services de renseignement, parce qu'évidemment, il donne des petits coups de main. Il est protégé par une partie de la magistrature, et évidemment, il a des appuis politiques. Donc ça se présente assez mal pour le faire tomber. Sauf que nos deux amis flics, ils ont un journaliste avec eux, ils vont lui donner des infos. Et le journaliste, il va faire son boulot, il va sortir quelques infos. Et là, ça va commencer un peu à remuer cette fange nauséabonde. Du coup, à la fois les services de renseignement, à la fois la hiérarchie de la police et les politiques vont se dire « Attendez, là on ne maîtrise plus la chose. » Et d'un viol, d'une séquestration absolument abominable, va découler tout un tas de petits incidents qui vont peut-être, hein, je raconte pas tout, qui vont peut-être amener à la fin de Mammouth.
Petite précision pour les auditeurs, Arpad Soltès est journaliste d'investigation, donc il a mené plusieurs enquêtes sur le terrain. Donc il est slovaque, comme vous l'avez dit, il est communiste, il vit à Bratislava et il vient de recevoir le prix du premier roman slovaque.
Écoutez, je l'ignorais totalement, heureusement que vous êtes là, Marie.
Quand je dis il vient, c'était en 2017, hein, puisqu'il est arrivé chez nous, il est traduit. Mais...
Oui,
voilà.
Oui,
donc,
oui,
peut-être qu'il a écrit d'autres choses depuis.
Le roman a 2 ans.
Ouais.
En tout cas, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est extrêmement documenté,
ouais.
Mais ce n'est pas non plus un devoir universitaire. C'est romancé exactement comme il faut. Il y a une première scène, je peux la raconter, la première scène, c'est un juge, en fait, qui va aux toilettes et qui se retrouve victime d'un attentat dans les toilettes. Donc, il y a aussi quelques scènes un peu drôles. Heureusement, parce que ça fait passer la pilule. Mais ce qui est intéressant, à la fois la narration est prenante, mais c'est aussi de découvrir ce territoire incroyable qui est dans l'Union européenne, où c'est carrément la jungle. C'est vraiment la jungle. Donc, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et pour une fois qu'on a un roman de cette trempe, il faut surtout pas se priver. Après, c'est chez Agulot, donc ça veut dire que les lecteurs en Corse, il faudra qu'ils fassent l'effort d'aller embêter leur libraire pour dire voilà, je voudrais ce livre.
Il faut le commander.
Il faut le commander. Mais alors, ne le commandez pas chez Amazon. Encore une fois, il y a un site de librairie indépendante. Vous y allez et vous pourrez le trouver. Mais sinon, je pense que
l'écriture est vachement bien. Vous nous donnez un extrait, parce que moi là, j'ai un extrait absolument fabuleux sous les yeux.
Oui, attention, c'est assez cru. Hein.
Ouais,
c'est glauque. Alors. Après la scène donc de l'attentat contre le juge.
Moi j'ai une scène de Nichon là.
Ah oui. Alors
hyper bien.
On va voir. Donc un îlot de civilisation au milieu du désert.
Ah c'est celui que j'ai.
C'est le début.
Ah ben formidable.
Un hypermarché. Cet endroit n'est pas le trou du cul du monde. Cet endroit est un abcès purulent sur le trou du cul du monde. Il n'y a ni pute ni SDF. Voilà longtemps qu'ils ont clamsé de faim ou dans une bagarre. À l'entrée, le vigile blasé tire sur une clope sans filtre, flétrie, collée à sa lèvre. Son mobile à l'antenne cassée capte mal. C'est comme s'il voulait héler quelqu'un à l'autre bout de la ligne, mais sans faire de bruit. Il coupe la communication. Il laisse échapper un nouveau nuage de fumée et, les yeux mi-clos, se fait des films concernant l'autostoppeuse de l'autre côté de la route. Si on l'avait pris comme flic, il aurait pu la faire monter dans une voiture de police. Il crache quelques grains de tabac et fourre sa main dans sa poche pour se camoufler. « Mammouth, freine !» Crissement de pneus, la Mercedes verte dérape, la route est encore mouillée après l'averse. Ça, c'est des nichons.
Ça donne envie. Ça s'appelle Il était une fois dans l'Est, Arpad Soltès, chez Agulot, donc qui vient de le faire paraître et qui l'a traduit.
Barbora Fort,
et qui avait reçu donc le prix du premier roman slovaque en 2017. Merci à Agulot pour ce choix qui nous fait très très envie. Délivre et délire sur RCFM, merci d'être avec nous. Paul Parr, si vous nous présentez RIS, 1 minute 49 secondes, chez Actes Sud.
Bon, c'est un excellent livre.
Ah ouais.
Bon, d'abord, je suis une lectrice assidue et reconnaissante de Charlie Hebdo. Et c'est pas tant d'ailleurs pour les caricatures, quoique, c'est jouissif quand même, de voir par un coup de crayon donner un coup de pied au cul de certains abrutis. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus dans le journal. C'est tout simplement les journalistes qui écrivent des éditoriaux remarquables. Et qui sont rejoints d'ailleurs, dans la semaine, par des écrivains, amis, qui viennent. Moi, il y en a un que j'adore, c'est celui que nous avons reçu ici, c'est-à-dire Wilson.
Ah oui, Robert McLaren.
Et quand il vous explique dans son éditorial son pays, c'est-à-dire l'Irlande et le Brexit, oh, un bonheur, on comprend tout. Et puis, bon, il y en a d'autres, hein. Il y a Darius Seck, il y a énormément de très bons écrivains qui viennent... de temps à autre, écrire dans le journal. Bon, une fois que je vous ai dit mon amour pour Charlie Hebdo, j'arrive à RIS, qui est le directeur du journal. Il était un des deux directeurs, avec Charbe, jusqu'à l'attentat de janvier 2015, où Charbe a été tué avec d'autres, puisqu'il y a eu 12 morts ce jour-là. Et RIS est resté le seul directeur en charge de Charlie Hebdo. Alors, ce livre... Eh bien, il y raconte beaucoup de choses. Il y raconte, bien sûr, ce qu'il a vécu ce jour-là. Ensuite, évidemment, puisqu'il a été gravement blessé à l'hôpital, il y raconte ensuite sa reprise en main de Charlie Hebdo avec d'autres. Et il y raconte en même temps plein de souvenirs qui reviennent parce que les hôpitaux sont propices à ça. Vous faites revenir de votre lit les souvenirs, ceux de l'enfance, de la jeunesse, ceux de l'apprentissage, puisqu'il fut un apprenti dessinateur auprès de Cabu et d'autres. Donc c'est un livre très dense. C'est un livre aussi, un livre où il y a beaucoup de tristesse par moment et de rage, beaucoup de rage. Il y règle ses comptes. Il y règle ses comptes comme un guerrier. Hein. Il tape sur ce qu'il appelle les collaborateurs, ceux qui se sont réjouis et qui continuent à se réjouir que l'on puisse interdire à un dessinateur, interdire à un journaliste, à un écrivain, de dire même d'une façon extrême ce qu'il pense. Il y règle ses comptes et il les règle magnifiquement.
Est-ce qu'il parle de Plantu ?
Pardon ?
Est-ce qu'il parle de Plantu ?
Alors là, il n'en parle pas parce que je pense que c'est pour lui le pire.
Je crois aussi.
Les collaborateurs.
Il démarre son livre en écrivant « Il est impossible d'écrire quoi que ce soit oui. » et il va se démentir très vite avec ce roman qui a l'air somptueux. Vraiment, il faut...
Alors, il écrit ça,
ouais.
et comme l'ont écrit d'ailleurs bien d'autres.
Bien
Philippe
sûr.
Lançon aussi, il
bien
a écrit.
Sûr.
Et le livre de Philippe Lançon, qui pour moi reste un monument.
Absolument.
Hein. Le Lambeau est sans doute la grande œuvre littéraire de ces dernières années. Et, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres.
Luz aussi a fait un album. Les Indélébiles.
Oui, on en avait
oui,
parlé. En avait
oui,
parlé.
Oui. Et puis il y a... comment s'appelle-t-elle? Elle a écrit La Légèreté, Meurice,
oui.
qui a été également une journaliste de Charlie Hebdo. Il y a eu des tas d'ouvrages qui ont été écrits par les survivants, comme on dit. Hein. Mais je crois que les deux grandes œuvres, c'est Philippe Lançon avec Le Lambeau et Eris avec ce livre. Oui, ce livre... mais avec une extrême pudeur en même temps. Il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas et qu'il refuse de mettre en avant. Il parle très peu de sa femme. Il y a un passage magnifique où il explique, où il nous raconte, sa femme a un cœur qui est un petit peu faiblard. Donc, le médecin l'a bardé d'un tas de d'appareils pour justement lire ce que devient ce cœur. Et c'est là, elle est chez elle. On lui a dit qu'il fallait pas qu'elle bouge et qu'elle soit tranquille. C'est là qu'elle apprend l'attentat. Et elle ne sait pas s'il est mort ou vivant. Et donc, elle part comme une folle chez son cardiologue pour se faire enlever tous les fils. Elle dit au cardiologue ce qui se passe. Il se met à hurler lui aussi contre tous les salauds, les barbares, etc. Il la débarrasse des fils et elle part à sa recherche. Mais il ne donne jamais le nom de sa femme. Comment dire? Il nous raconte ça un peu comme une petite excroissance de ce qui lui est arrivé, quoi. Sa femme, c'est en sortant de l'opération, quand il ouvre les yeux, qu'on le trimballe à travers les couloirs de l'hôpital, qu'au bout du couloir, il la voit avec sa sœur et son frère, et il se dit qu'il est vivant. Il est vivant. Voilà.
1 minute 49 secondes, RIS, chez Actes Sud. Vous avez un extrait, sélectionnez un extrait.
Je peux vous en dire des quantités, mais vous savez que j'aime beaucoup lire les femmes livres.
Oh. Alors attendez, je vous approche le micro peut-être.
Bon, ouais. Ça va, je vais me débrouiller. Tout était déjà survenu, depuis des jours innombrables. Les peurs et les ombres m'avaient investi. Et comme un vaccin qui se réveille au moment de l'infection, elles déployèrent autour de moi leur voile protecteur. J'avais échappé à la mort, et pour quelque temps encore à la folie. Un nouveau fardeau avait pris la place des précédents. Dans la voiture qui me transportait vers le journal, les façades des immeubles parisiens défilaient sous mes yeux, et sur les avenues, les passants se pressaient, occupés à des choses cruciales dont semblait dépendre leur existence. Ils marchaient et couraient en direction d'on ne sait quoi, d'on ne sait qui, pour faire on ne sait quoi. Je me surpris à les observer, comme je m'étais vu dans les rues de la ville de mon enfance. Des revenants, ils étaient tous déjà morts et ne s'en rendaient pas compte. Ils bougeaient pour se convaincre de leur existence, mais leur présent était déjà leur passé. Les visages provenaient de toutes les époques, de tous les siècles et de tous les royaumes. La mort seule parviendrait à les réunir à travers les âges, en les rendant tous identiques, et moi avec eux. Nos morts, leurs voix, leurs rires, leurs exclamations, leurs mots et leurs gestes disparus m'invitaient à accepter ce qui n'était plus, à noyer. Il était devant moi et je m'en détachais déjà. Les jours qui s'écoulent m'éloignent des adieux que je leur fis en me rapprochant de l'accueil qu'ils me feront demain. Un jour, c'est sûr, on se retrouvera tous.
C'est magnifique. 1 minute 49 secondes chez Actes Sud. C'est signé RIS. Il vient de sortir, hein, ce bouquin est sorti début octobre.
Donc, lisez l'éditorial dans Charlie Hebdo de notre ami irlandais cette semaine.
Ah bon, bon. Robert McLiam Wilson.
Bon, très bien, très bien. Merci Paul. À présent, nous retrouvons Bénédicte dans Délivrer des Lires, toujours sur RCFM, avec 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andréa, paru chez l'Iconoclaste.
Oui, c'est son deuxième roman. Alors, je ne connaissais rien de ce monsieur. Hein. Il est aussi réalisateur et scénariste. Et c'est vrai que j'ai dans cette rentrée littéraire, j'ai commencé beaucoup de romans que j'ai assez vite abandonnés parce que les 40 ou 50 premières pages n'arrivaient pas à me convaincre. Et là, je commence celui-ci et je tombe sur cette phrase dans les 10 premières pages. Un simple hameau perdu au bout d'un jour d'été. Et je me suis dit que là, j'avais peut-être fait bonne pioche. Donc, on est en 1954.
C'est Daphné du Maurier.
Non, mais
c'est... Et alors j'adore, j'adore. Non, non, mais je suis folle de Daphné du Maurier.
Donc, 1954, Stan est un paléontologue de 52 ans et il décide de partir dans la montagne, dans un glacier entre la France et l'Italie, parce que il est possible que dans une grotte, il y ait le squelette quasi entier d'un spécimen très rare de dinosaure. Alors, je ne vous dis même pas comment il a cette idée en tête, parce que je trouve que ça fait partie de la poésie du roman. Donc trois hommes vont l'accompagner. Il y a Umberto, le scientifique et ami de toujours, l'assistant de cet Umberto, Peter, un jeune Allemand, et un guide de montagne ultra expérimenté. Donc l'expédition est très risquée, l'objectif est des plus incertains, parce qu'ils ne savent pas exactement où se trouve cette grotte. On ne sait même pas si ce squelette existe réellement. Mais Stan est à un moment de son existence où il se dit qu'il doit faire cette expédition et que cette fois-ci, il ne doit pas renoncer. Donc le récit est essentiellement centré sur la quête de ce squelette. Et là, on retrouve, mais c'est bien fait cette fois-ci, l'univers, si vous voulez, du conte. Parce que oui, il y a cette quête, il y a des personnages de contes.
Vous voulez dire par rapport à la semaine dernière, Natacha Pana.
Voilà.
D'accord.
Bon. Mais vous voyez, ça m'avait échappé, donc je voulais pas, mais vous l'avez dit. Quand il parle de ces personnages, enfin de ces trois accompagnateurs, il dit voilà, il y avait un géant athée amoureux d'une déesse, un ancien séminariste ventriloque, un guide qui parle la langue oubliée des montagnes. Il y a des monstres, mais les monstres, c'est ceux qu'ils vont emporter avec eux-mêmes dans cette montagne. Et il y a évidemment cette confrontation avec cette nature qui est, enfin, cette montagne hein, qui est un personnage à part entière, qui est une force mystérieuse. Et ça va être l'occasion pour Stan d'être confronté à lui-même, si vous voulez. C'est vrai qu'ils sont quatre, mais c'est quand même d'abord l'expérience de la solitude. Et c'est véritablement, si vous voulez, une sorte de quête existentielle. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même du récit d'aventure. Parce qu'on est avec eux, et ça c'est très beau. On est avec eux dans la montagne, on a froid, on veut trouver ce squelette, etc. Mais à chaque fois, ils creusent et ils ne trouvent pas. Bon, ils sont perdus. Donc on arpente avec eux la montagne, mais en même temps, voilà, vous avez cette quête du personnage. Il y avait de fréquents flashbacks où on revient sur l'histoire de Stan et on découvre que c'est l'histoire d'un enfant solitaire. Sa mère meurt alors qu'il est très jeune, il a 8 ou 9 ans, mais elle a quand même pu lui donner le goût des histoires. Elle lui raconte des histoires et ces histoires sont des refuges parce que son père est un sinistre abruti qui est particulièrement violent et... Il trouve refuge, si vous voulez, dans toutes ces histoires. Mais le problème, c'est que ce père le contraint au silence. Donc lui, voilà, il va se raconter des histoires. Et finalement, être paléontologue, même s'il a trouvé un petit fossile quand il était jeune, devient alors presque naturel. Parce que si nous ne sommes pas capables de croire à une histoire juste parce qu'elle est belle, à quoi bon faire ce métier, dit à un moment donné Peter. Et évidemment, tout cela, si vous voulez, va résonner en creux avec le travail de l'écrivain. On devient paléontologue parce qu'on aime les histoires pour en raconter à soi et aux autres. Donc, de même que le paléontologue va plonger comme ça dans l'immensité du temps pour reconstituer l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, eh bien, l'écrivain va plonger dans l'immensité de son passé, de ses souvenirs, pour dire son histoire, pour dire son monde, qui se trouve parfois être notre histoire et notre monde. Alors, il nous dit à un moment donné, voilà, c'est un livre de ruines et de peines, mais en même temps, c'est un roman qui dit une certaine forme, j'allais dire, d'espérance, de beauté, de liberté et de folie. De folie salutaire, de folie saine, hein, si je pouvais dire ça. Parce que il prend son personnage à un instant charnière de son existence, quand on peut décider que quelque chose de grand va arriver dans sa vie. Vous voyez quand on peut tenir des promesses qu'on n'a pas tenues autrefois, quand on peut vivre ce que l'on n'a pas vécu. Donc c'est le récit, si vous voulez, c'est un récit de survie. C'est aussi le récit d'un réveil, parce que pour ne pas se noyer dans son enfance, pour ne pas rester, l'expression est belle, il dit pour ne pas rester à faune, parce qu'il aura ce sentiment de l'être depuis son enfance. Stan doit poursuivre ce rêve. Et c'est un roman qui est d'une poésie, parce que là, il faut parler de la langue, c'est d'une beauté, c'est à la fois, c'est d'une délicatesse, tout est délicatesse dans ce roman.
Allez-y, balancez.
Alors, je balance, mais celui que j'ai déjà balancé, mais il y en aurait
moi
plein
aussi,
d'autres.
Je me sens complètement à faune depuis l'enfance.
C'est un pays où les querelles durent 1000 ans. La vallée s'y enfonce, s'égare comme un sourire de vieillard. Tout au fond, pas loin de l'Italie, un cyprès immense cloue le hameau à la montagne. Les maisons font cercle, se bousculent, étendent leurs tuiles brûlantes pour le toucher. Les ruelles sont si étroites qu'on s'écorche les épaules à les parcourir. Ici, la place est rare et la pierre la convoite. À l'homme, elle ne laisse que des miettes. Le village ressemble à la photo que j'ai vue, flou, bu par du mauvais papier. L'épingle verte du cyprès est tout autour, un grand battement ocre de papillons agonisants. Et en même temps, non, mais
c'est un premier roman.
C'est son deuxième roman. Et il y a des choses.
Vous n'écoutez pas, elle l'a dit au début.
Il y a des choses même comme ça qui sont très drôles.
Oublié, parce que entre le début de la chronique et la fin, c'est extrêmement sensuel, c'est très
mais
très
c'est
beau.
Ça, c'est-à-dire, je vous dis la douceur et la rugosité de la montagne. Et vous avez en même temps de l'ironie parce que ce Umberto, donc c'est une espèce de géant qui tombe amoureux et ça surprend Stan. Et il dit voilà, Umberto est une montagne, c'est comme si le Mont Blanc tombait amoureux d'Audrey Hepburn. Voilà, quand il raconte en disant ah non, il y a des choses comme ça qui sont vraiment très très belles. J'ai appris aujourd'hui qu'un orage avait un goût de métal et de pierre qui nous zingue la bouche.
Oh là
non, ça c'est formidable.
On le trouve dans des petites listes de prix ou pas, puisqu'on est dans la période des prix.
Non,
pas forcément
du tout.
Non,
trop bon pour être dans une liste. La fille qui devient aigrie. Non, c'est vraiment. Et puis tout est en finesse. Bon après il y a quatre parties qui sont liées, comme ça.
Prêtez-le-moi s'il vous plaît.
Je l'ai pas parce que je l'ai surliseuse.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Les quatre parties, c'est les quatre saisons. Ça pourrait être cliché. Ça n'est pas du tout, et ce n'est pas anodin, je tiens à le dire, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un roman plombant, parce que ça finit sur le printemps et sur une phrase de très belle et lumineuse, très simple, mais voilà, non, c'est beau.
C'est un roman de montagne,
vous allez être dans la montagne, et en même temps, vous allez penser à plein de choses très très intimes. Non, mais vous allez être dans la montagne, vous allez tenter de survivre dans la montagne quand vous êtes
pris par le froid. Bon, moi ça me plaît beaucoup, ça me donne très très envie, ça s'appelle 100 millions d'années un jour de Jean-Baptiste Andréa, et ben c'est bien parce qu'on va pas tarder à partir en vacances, donc je vais m'approprier les trois livres que vous m'avez présentés, et que vous avez présentés aux auditeurs, formidable. Il était une fois dans l'Est, d'Arpad Zoltès, qui a l'air vachement bien chez Agulot. Rhys, avec 1 minute 49 secondes chez Actes Sud. À mon avis aussi, ça va être une lecture et intéressante et émouvante. Et voilà, et puis il faut y aller. Et donc, 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andréa chez l'Iconoclaste, qui a l'air également passionnant. Merci à vous tous.
Merci Marie.
Pour ces propositions et ces coups de cœur que vous nous présentez cette semaine. Merci Paul.
Je vous en prie Marie, ce fut un plaisir.
Vous reviendrez peut-être. On l'espère en tous les cas, car vous manquez aux auditeurs. Donc merci de faire un petit coucou de temps en temps. Merci Bénédicte et merci Christophe. À la semaine prochaine. Si vous le voulez bien. Ah, n'oubliez pas, écoutez-nous en podcast.
Ah oui.
C'est très important.
C'est encore meilleur.
Quand vous voulez, où vous voulez, dans n'importe quelle position, c'est sur le site de France Bleu, RCFM. Bah oui, c'est bien. Au revoir. Dans un instant, c'est Sapiens avec Jean-Michel Fraticelli et Fabrice Fenouillère. My black shroud, holding down my feelings.
what I feel, that empty feeling.